J'ai eu un temps que j'ai vécu tout à nouveau avec un jeune homme qui fait partie de l'Église et qui souhaitait qu'on chemine ensemble par rapport à la parole de Dieu. Et m'est venue à l'esprit à un moment donné cette idée, on travaille sur l'appel de Dieu au travers de l'appel de Saül, qui pour moi a été un des appels les plus caractéristiques, les plus, je dirais, construits qui soient pour que Saül, qui va devenir roi, le devienne en passant par toutes les étapes indispensables pour comprendre qui il est, qui est Dieu et quel est son appel. Vous me direz, le résultat n'est pas forcément très probant. Mais je vous invite à lire ce passage-là. Et je disais à ce jeune homme, je lui disais, en fait, la parole de Dieu, y compris dans l'Ancien Testament, nous parle des principes qui sont inhérents à la vie spirituelle. Dans la vie naturelle, il y a des principes et on ne peut pas y déroger. Si je demande à Christophe de monter sur sa chaise et de se lancer en l'air, non, il ne le fait pas. Il va pas s'envoler. Non, non, il aura beau avoir l'idée, je vais essayer de voler. Et c'est Michel qui m'en parlait hier par rapport à l'anesthésie. Il dit, ça me rappelle tous mes copains dans le groupe de rock où j'étais quand j'étais jeune. Il y en a plein qui prenaient du LSD et ils se prenaient vraiment pour des petits oiseaux. Mais le problème, il y a quelque chose qui s'appelle un principe inaliénable, c'est la gravité terrestre. Tu as beau te prendre pour un oiseau, Christophe, si tu sautes de la chaise, tu retombes sur le sol. C'est un principe physique. Eh bien, il en est de ce monde comme du monde spirituel. Il y a des principes spirituels qui existent. Et nous avons tous, quand j'ai travaillé au niveau doctrinal pour notre Église sur la nature de l'homme, je disais, on considère que l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps, c'est la partie qui permet d'être en relation avec tout son environnement, avec ses cinq sens, le toucher, l'odorat, etc. Donc, le corps, il sert à ça, à être en contact. Vous pouvez voir la nature, vous pouvez sentir la chaise qui te porte, Christophe, voilà, par le toucher, etc. Et puis, l'esprit. Eh bien, l'esprit, c'est la dimension que Dieu a donnée à l'homme pour toucher du doigt, s'il le désire, tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Alors, on peut le nier, mais il y a des choses qui vous échappent au niveau de vos sens physiques, mais qui, pour autant, sont pris en compte par votre dimension spirituelle. L'esprit, c'est ce qui permet d'élever l'homme à un niveau où les animaux ne sont pas. Alors, vous avez un esprit, et cet esprit-là, il permet de découvrir le beau, ce qui me plaît, ce qui est agréable, la musique, le dessin, l'architecture. Tout ça, c'est mon esprit qui... Là, le sens du beau, il est lié à ça. Mais dans cette dimension spirituelle, il y a aussi la possibilité, la capacité d'entrer en relation avec Dieu, avec mon Créateur. Alors ça, ce sont des principes. Maintenant, quand on lit l'Écriture, est-ce que ces principes-là, on les découvre? Et j'avais envie ce matin, puisque je parlais de cela avec ce jeune homme, eh bien, de vous proposer un texte et d'y découvrir, ou que vous cherchiez quels sont les principes spirituels qui sont aussi vrais dans l'histoire d'Israël, parce que sinon, je disais à ce jeune homme, si l'Ancien Testament, ce sont que des récits qui sont là par intérêt, mais qui ne nous parlent pas à nous pour découvrir des principes spirituels, je veux dire, on enlève l'Ancien Testament, on garde que le Nouveau. Et encore le Nouveau, est-ce qu'il faut garder les évangiles qui racontent des récits, etc. Ou est-ce qu'il y a aussi des principes spirituels qui sont pour nous aujourd'hui? Alors, j'ai dit, on va partir sur un récit et on va faire quelque chose. Il y en a qui vont se dire, zut, j'aurais pas dû venir ce matin. En plus, il bosse pas, il nous fait bosser. Je vais vous demander de vous mettre par petit groupe de 6, 7 personnes et de bouger vos chaises. On va casser le culte habituel, son rythme, sa forme. Et vous vous mettez par affinité, comme vous voulez. Les couples peuvent rester ensemble ou se séparer. Mais allez-y, vous vous mettez par petits groupes de 6 ou 7. Et vous écartez les groupes pour ne pas vous marcher sur les pieds. Ah, je dis 6, 7. Il y a un groupe, regardez s'il y a des groupes qui sont trop petits pour vous mettre avec, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, vous êtes à peu près entre 5 et 7 ? C'est bon ? Je ne vais pas revérifier, hein. Alors, une fois que vous êtes assis, ça y est, asseyez-vous. Tout le monde a trouvé une place ? Ah ben, Corinne, elle est sortie, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Vas-y. Ah ben, on joue aux chaises musicales et t'as perdu. Alors, pas dans un groupe où déjà... Est-ce qu'il y a un groupe de 5 ? Ah ben, va avec le groupe de Francine. Ça va très bien. Voilà. Très bien. Alors voilà, on casse les codes hein, du culte habituel et traditionnel. Et puis, je vais vous proposer, on va lancer le PowerPoint et je vais vous expliquer. Voilà. Alors, c'est bien, vous avez un écran là-bas pour ceux qui, éventuellement, ont du mal à lire, mais sinon, vous avez ici. Je vais vous proposer de découvrir deux épisodes, deux chapitres, en tout cas, du livre de Josué. Et en fait, c'est un pour vous resituer le contexte, pour que vous partiez pas à l'aveugle, on est dans l'épisode où Israël a été libéré de l'esclavage de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et puis ils ont traversé, je dirais, la mer Rouge à pied sec. Écoutez bien, parce qu'il y a des rapports avec ce qu'on va voir après. Et puis ils se sont présentés devant la terre promise. Moïse envoie 12 espions... visiter la fameuse terre promise, ils reviennent, il y en a 10 qui disent « Oh là 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 là, trop compliqué, il y a des géants, on va rencontrer des problèmes, on va être imposé par les taxes, et puis le président Macron... » Ah non, non, je reviens, excusez-moi, je mélange. Et puis la terre promise, elle n'est pas si bonne que ça. Donc, non. Et puis il y en a deux, l'un c'est Josué, celui qu'on va voir, et Caleb. Et eux, ils disent « Attendez... On vient d'être libéré d'Égypte. L'ange de l'Éternel est venu, a contraint Pharaon à nous libérer. Alors de quoi est-ce qu'on a peur maintenant, puisque l'Éternel est avec nous ? Et puis finalement, les 10 sceptiques vont l'emporter. Et ça me rappelle, j'ai reçu une petite vignette comme ça de je ne sais plus trop qui disait là, cet épisode des 10 espions, c'était. Le festival interceptique. Bon, je le mets de côté. Et donc, ils sont embarqués pendant 40 ans dans le désert, et au bout des 40 ans, ils reviennent devant la terre promise, et là, Dieu dit à Moïse, bah, toi, tu vas rester de côté, et c'est Josué qui va rentrer. C'est ça, c'est le récit avant ce qu'on va lire. Et moi, je vais vous inviter à prendre connaissance de plusieurs passages. Le premier... C'est le passage de Josué 3, 1 à 5. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Voilà le premier texte que je vous invite à découvrir. Et ce texte-là, quand on lit la Bible, on se dit, soit c'est un texte qui nous raconte l'histoire d'Israël, et c'est une belle histoire, soit il a à l'intérieur de ce texte-là des principes qui s'appliquent à notre vie d'aujourd'hui. Mais ils sont où, ces principes, quand on lit ce texte-là? Alors, pour ne pas vous laisser sans repère, c'est une manière de lire l'Écriture aussi en se disant, si Israël est obligé de passer par des passages qui lui sont indiqués par Dieu, c'est qu'ils ont quelque chose à apprendre par rapport à eux-mêmes et par rapport à Dieu. Alors, j'enlève le texte, vous l'avez lu, et en fait, ce que je vous propose, c'est de vous poser des questions. Quand on lit l'Écriture, c'est en fait toujours se dire, mais quelles sont les questions? Alors, en première vue, et si la marche du peuple d'Israël symbolisait la marche du chrétien? Et il s'agit d'avoir toujours ça en tête, se dire, mais c'est bien comme histoire, mais est-ce que ça me dit à quelque chose à moi d'aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, il faut enlever le livre de Josué de votre Bible et passer à autre chose. Alors, je vous donne quelques questions, mais il n'y a pas toutes les questions par rapport au texte, mais combien de temps reste-t-il devant le Jourdain avant de le traverser? Tiens, combien de temps il reste devant le Jourdain avant de traverser? Et qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui? Donc, il reste 3 jours. Ça veut dire qu'on ne vous a pas averti, mais vous allez rester ici 3 jours. Ah ouais, non, mais vous avez... Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça va vous poser comme problème? On a des sanitaires, on a des tisanes, etc. Mais qu'est-ce qui va vous manquer? Ben, posez-vous la question, parce qu'il y a un principe spirituel. S'il ne rentre pas tout de suite et qu'il reste 3 jours, je ne sais pas ce que ça peut vous dire, mais à vous de réfléchir. Et je vous ai mis... un tout petit, entre parenthèses, 1:11, c'est-à-dire chapitre 1, verset 11, du même livre. Et là, vous aurez un indicateur, mais qu'est-ce qu'il veut dire pour nous aujourd'hui? Deuxième question, que représente le Jourdain? Ensuite, pourquoi l'arche doit-elle être devant? Pourquoi à 1 km, donc les 2000 coudées? Quelle exigence est posée par Josué avant de se mettre en route et pourquoi? Et puis, il y aurait d'autres questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez dire, tiens, ouais, ils sont obligés de faire ça ou de suivre telle règle. Et ça, c'est un principe que moi, je considère important pour ma vie. Là, il y a des choses toutes simples. Hein. Par exemple, se lever, alors c'est sur la suite, mais se lever, sortir des tentes. Ça veut dire quelque chose spirituellement. Pourquoi ils ne restent pas dans les tentes tranquillement à attendre que le retour du Seigneur? C'est ce qu'ont fait les chrétiens de Thessalonique. Hein. Voilà des livres, des lignes, des questions. Vous êtes ensemble, échangez, vous avez environ 8 minutes d'échange pour dire qu'est-ce que ça veut dire comme principe. Allez-y! Ce qui est vrai pour le peuple d'Israël dans une expérience avec Dieu, est-il vrai aussi pour nous? Mais alors de quelle manière? Alors la première question, c'était... Combien de temps reste-t-il devant le Jourdain avant de le traverser? Qu'est-ce que vous avez retiré comme principe par rapport à cette démarche-là? Alors, si je prends, il y a un micro qui va circuler. Allez, rapidement sur le groupe ici à ma gauche.
Oui, c'est bon. On a noté pour les 3 jours d'attente... que c'était pour exercer sa foi, sa patience, son obéissance. Mm-hmm. Ce seraient des vertus qui nous sont nécessaires encore aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Les autres groupes, qu'est-ce que vous avez? Vous passez le micro? Ouais, allez-y. Allez, quelqu'un dit, qu'est-ce que dans votre groupe vous avez retiré comme enseignement de cette question des 3 jours?
Alors, les 3 jours... On a remarqué que ça pouvait être le vendredi, le samedi, le dimanche, jusqu'à la résurrection. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et que c'était donc un temps de préparation qui va nous transformer.
Mm-hmm. D'accord. OK. À l'autre groupe, tu as passé à Corinne et au groupe qui veut dire un petit peu ce que vous en avez retiré de cette question?
Alors, on a dit 3 jours pour préparer des provisions, pour réfléchir, se préparer physiquement, mentalement et spirituellement pour les combats qui vont suivre derrière, quoi.
D'accord. Mmh. Jean-Jacques, qui a toujours le mot pourri, dit « et apprendre à nager ». Mais ce n'est pas si absurde que ça, parce que eux, ils n'ont pas encore dans l'idée que l'eau va s'ouvrir. D'accord ? L'autre groupe ?
Alors, on a mis 3 jours pour avoir le temps d'une préparation spirituelle. Écouter, comprendre la parole, discerner, un temps d'attente nécessaire pour l'obéissance, la discipline, agir dans la sanctification et non pas par notre réflexion humaine.
D'accord, très bien. Le groupe ici, vous pouvez amener le micro, s'il vous plaît, ou là-bas.
On m'entend ? Oui.
Oui, vas-y.
Alors, 3 jours, c'est un temps d'arrêt et de préparation. 3 jours, ça évoque aussi les 3 jours de la croix, de la mort, de la crucifixion de Jésus, jusqu'à sa mort, et le jour où il a été sorti du tombeau et sa résurrection. Ouais. Hervé aussi a même évoqué le chiffre 3, 3 fois. Jésus a été tenté 3 fois, donc oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi 3 fois la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais bon, là, c'est temps d'arrêt, temps de préparation qui mène à quelque chose de nouveau, principe de la vie, en fait, la nouvelle vie, finalement. Enfin, je ne vais pas développer plus, mais...
D'accord.
Oui.
Très bien, merci. Alors, c'est vrai que vous avez étendu le chiffre 3 à d'autres éléments. Et dans la Bible, les chiffres ont toute une symbolique. Mais là, il s'agissait vraiment de 3 jours. Donc, où est-ce qu'on trouve 3 jours comme une période clé dans le parcours spirituel des hommes avec Dieu ? Bon, la résurrection, 3 jours, ça paraît quand même assez, assez clair. De votre groupe, qu'est-ce que vous en avez tiré ?
Ben, on a à peu près dit tout ce que j'ai pu entendre là. Bon, j'ai insisté sur les provisions, ça c'est sûr, c'est important.
Ça, c'est le capitaine qui part en mer.
Ouais, je promets.
Est-ce qu'on a assez à manger ?
Bon, je reviens sur une prière qu'on a eue tout à l'heure. Merci. Donc, le 26 octobre 2010, j'ai été attaqué par les pirates et j'étais dans ma machine. Ils n'ont pas réussi à nous mettre la main sur nous. On a été sauvés. Enfin, je peux vous dire que les prières que j'ai faites, elles ont été faites. Et ça a été génial. D'accord. Merci pour ta prière, parce que ça m'a beaucoup fait. Oui. Voilà, c'est tout. Je parlais de quoi ? Bon, les 3 jours, Karine.
Voilà. Voilà, vous voyez que le parcours... Ah, t'as pas dit... Allez-y. Allez.
Non, mais on a dit que c'était... On avait besoin d'être enseveli pour renaître et être ressuscité pour cette nouvelle...
Mais là, on n'y est pas encore. Là, on est avant le Jourdain.
Oui, mais c'est un ensevelissement.
Donc, vous avez les réponses de la prochaine diapo.
Purification. Trois jours.
OK. Très bien. Autre chose ? Non ? C'est bon ? Donc, vous voyez, ce que nous propose l'Écriture, c'est des parcours par rapport à comment... se séparer du monde, être avec Dieu, et quel cheminement, et comment le cheminement pour aller vers Dieu et avec Dieu suppose de passer des étapes qui sont incontournables. Ici, vous avez combien de temps reste-t-il ? 3 jours. Je vous ai mis exprès le verset 11 du chapitre 1, où il est parlé de provision. Avant de passer de l'autre côté du Jourdain, il y a tout un cheminement qui n'est pas seulement un cheminement physique de préparation des affaires, des provisions. C'est aussi tout un temps pour prendre conscience de ce qu'on quitte et vers quoi on va. Et quelque part, la conversion ou le travail que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on fasse comme des crêpes, ça y est, on a passé à là, on va à l'autre. C'est qu'est-ce qu'il y a comme cheminement intérieur de maturation pour passer de l'autre côté. Je prends l'exemple, par exemple, d'un mouvement qui porte le même nom que l'Église apostolique, qui est née au Danemark il y a une quinzaine d'années, où les gens vont témoigner dans la rue, ils attrapent quelqu'un, et puis ils dialoguent avec lui, ils prêchent l'Évangile, et puis, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ? Oh, bah oui. Bon, écoute, on va chercher de l'eau et je te baptise. Ouais, mais ça donne des résultats assez fragiles, parce que ça signifie qu'il n'y a pas eu ces 3 jours de maturation pour dire « Mais en quoi je crois ?» Paul dira « Je sais en qui j'ai cru. » Mais croire, c'est à la fois quelque chose qui rentre et qui me convainc, mais après, c'est comment je fais maturer ce qui est nouveau en moi. Et ces trois jours, ça représente, pour passer de la mort à la vie, ben c'est les fameux trois jours de Christ dans le tombeau. Et en fait, c'est aussi le cheminement qui est donné au peuple juif pour quitter l'ancienne vie et rentrer dans la nouvelle. Et puis on verra que, ben, malgré cela, ça n'a pas été si probant. Alors, merci pour toutes vos... qui a quelque chose de particulier? Alors, pourquoi l'arche doit-elle être devant? Alors, ben, on va dire que un des éléments, c'est ben, que c'est la présence de Dieu et que c'est cette arche-là qui les a conduits tout au long dans le désert, etc. Mais alors, pourquoi un kilomètre devant? Qui a des... Alors, je vais peut-être te demander, est-ce que vous avez une idée?
Oui, pour l'avoir toujours en vue. Et entre elle et nous, il peut y avoir quelque chose, mais on l'a devant nous. Donc c'est l'espoir.
Il y a quelque chose de ça. On peut donner le micro là-bas. J'ai donné à ce groupe-là en dernier parce qu'ils ont... Il y en a qui sont là. Moi, vous savez, je suis pas sourd, donc.
Allez-y. Non. Alors je continue. Bah, pourquoi un kilomètre? Parce que pas trop près. Et besoin de cette distance pour faire confiance. Et il y a la notion de foi.
Par la foi, d'accord.
Ouais.
Oui.
On avait oublié, c'est parce qu'un kilomètre de Saint Thomas est une colère, mais on n'est pas chez Néné.
Donc c'est un kilomètre par rapport à la sainteté de l'arche. Oui, on peut évoquer ça. Dans ce groupe-là, permis par vous après.
Pardon.
Est-ce que vous avez une réponse pourquoi un kilomètre?
Ben, nous, on a fait un parallèle avec l'histoire de Uza. Et on s'est dit que la... Donc Uza, à un moment donné, quand ils ont voulu transporter l'arche, mais pas de la bonne manière, ils l'ont mis sur un char. Et puis le chemin n'étant pas spécialement droit, le char a brinque-ballé, l'arche a failli tomber. Uza a touché l'arche pour qu'elle tombe pas. Et là, il est mort sur le coup. Quoi. Voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas toucher à la sainteté de Dieu comme ça. Et donc, on a fait ce parallèle-là en se disant l'arche doit être quand même assez loin. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on peut venir vers le Père, mais parce qu'entre lui et nous, il y a Jésus. Voilà, qui fait qu'on ne meurt pas. Quoi. Voilà, on a fait ce parallèle-là. On a pensé aussi que l'arche, c'était aussi un étendard et une bannière visible des ennemis.
Alors nous, ce qu'on avait pensé, c'est qu'effectivement, un kilomètre, c'est loin. Et justement, ça oblige à marcher par la foi et non pas par la vue. Oui, mais justement...
La distance, on
ne
voit pas.
Non, mais... il faut qu'on la voit. Parce que si on la met à 25 kilomètres, là, ils ne sauront plus où elle est, forcément. Il faut, okay. Ouais, voilà.
Ça peut être une explication.
Par la foi et pas par la vue.
Représente Jésus, c'est vraiment garder nos yeux sur Jésus.
Alors, voilà, vous avez touché. On en a fait ce fat group.
Oui, vous. La sainteté aussi, voilà. Ouais. Alors, c'est effectivement ce qui nous vient à l'esprit en tout premier lieu. Alors, c'est vrai que la sainteté de Dieu, le groupe évoquait la situation de Uza. Oui, d'accord. Il y a ça. Ceci dit, vous rappelez que pendant qu'ils étaient dans le désert, l'arche, elle était tous les jours devant, elle conduisait, etc. On n'a pas eu véritablement de distance, me semble-t-il, qui était posée. Par contre, dès qu'elle arrivait, hop, elle était mise à l'intérieur du tabernacle, plus personne ne la voyait. Et plus tard, elle sera à l'intérieur du temple. Alors, pourquoi un kilomètre? C'est intéressant parce qu'en fait, une des explications données par les milieux juifs autorisés, comme on dit, les exégètes juifs, disent bah, à cause du nombre. Et ça a été évoqué dans votre groupe. Hein, je vous ai donné le micro, d'ailleurs. Non? Ah, vas-y.
Bon, nous avons effectivement évoqué aussi cette sainteté de Dieu de laquelle on ne peut pas s'approcher directement par nous-mêmes, mais on a aussi évoqué un autre point, c'est la visibilité. Le peuple était extrêmement nombreux. Comme l'arche devait en fait diriger le peuple, le conduire, il fallait qu'elle soit bien visible de l'ensemble du camp. D'où cette distance qui est importante, mais sans doute nécessaire.
Est-ce que vous avez une idée? Tu peux te lever? Oui, oh ben, en kilomètres, ça dépend si tu es en plaine. Mais, alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte? Oui? L'estimation, parce qu'on a, les chiffres des hommes, 600 000, les épouses, les enfants, on dit en général 4-5 enfants, on est sur 6 millions de personnes. Imaginez que Christine soit l'arche et que moi, je sois... je dis, il ne faut pas que je touche. Allez, je suis à 5 mètres. Et puis que derrière moi, il y a tous les autres qui commencent à s'agglutiner, qui sont à 5 mètres. Qui voit l'arche? Les premiers rangs. Alors, un kilomètre, ça paraît être beaucoup, mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi qu'on est avec une arche qui a une colonne de fumée le jour et une colonne de feu la nuit. Voilà, qui représente la présence de Dieu. Alors, cette notion du 1 km, je dis, c'est une juste mathématique, etc. Oui, mais si on transpose à notre foi actuelle, supposons que là, pour le coup, l'arche, vous avez dit souvent, c'est une représentation de Jésus, et que moi, tu peux te tourner sinon, et confiance que je sois à 1 km. Je dirais que je laisse avoir Jésus quand j'en parle aux autres. C'est-à-dire que je dis, voilà, regardez, voilà Christ, etc. Si je suis à une certaine distance, ça oblige les personnes non pas à me regarder, moi, le pasteur de l'Église apostolique, etc., mais à regarder Jésus, parce que du coup, il est visible pour tous les autres. Mais si je suis juste derrière en disant, je vais vous parler de Jésus, tous ceux qui sont là, qui est-ce qu'ils voient? Moi. Et c'est souvent une erreur que l'on fait en pensant que je suis plus intéressant que celui dont je parle. Parce que ma prédication, mon témoignage, ce n'est pas de me rendre visible moi, mais de rendre visible Christ. Et un des versets qui parle de ce principe-là, c'est le verset où il est dit « Il a été élevé ». C'est-à-dire que quelque part, il n'a pas seulement été élevé sur la croix pour être visible de tout le monde, mais il a été élevé, il est assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, même si je prêche, moi, ici, et vous avez remarqué qu'on n'a pas d'estrade, et c'est un choix de l'Église et de l'équipe pastorale, dire on ne met pas le prédicateur plus haut que pour le glorifier ou le mettre en hauteur. Non, il s'agit de faire en sorte que ceux auxquels je m'adresse élèvent leur regard et cherchent à voir Christ. La question spirituelle de ce 1 km, elle est mathématique, merci. Parce que 6 millions de personnes, vous imaginez, qui suivent et qui regardent. Si l'arche était même à 100 mètres ou à 200 mètres, avec 6 millions de personnes, il y en a 5 millions qui ne voient pas. Où est-ce que va l'arche, dans quelle direction, etc. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas perdre les personnes qui sont appelées à suivre Dieu du regard en le masquant, en le mettant trop près de nous et en oubliant de le rendre élevé. Donc voilà. Alors, quelle exigence est posée par Josué avant de se mettre en route? Pourquoi? C'est tout simplement, les 3 jours servent aussi à se sanctifier. Dans la tradition, la théologie juive, se sanctifier, ça veut dire se laver, laver ses vêtements, ne pas avoir de relations sexuelles pendant 3 jours, etc. C'est-à-dire essayer de se garder pur pour se consacrer à Dieu. Voilà, donc c'est aussi un temps de préparation pour passer de l'autre côté. L'autre diapo. Vous avez ici la suite du texte. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre qui va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau,
le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Écoutez bien, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, c'est-à-dire la mer morte, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent à pierre ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Les questions qu'on peut se poser, quelle différence y a-t-il entre la traversée du Jourdain et celle de la mer Rouge 40 ans avant ? Est-ce qu'il y a... C'est pas faux, mais pas, c'est pas la seule. Il y en a d'autres. Que représente l'arche à ce moment pour les Juifs et quel rapport avec Jésus ? L'arche doit être visible. À quel moment Dieu a-t-il rendu cela possible ? Est-ce que c'est seulement à ce moment-là ? Est-ce que c'est quand ils sont dans le désert, etc. ? Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment particulier ? Sortir de ses tentes pour passer le Jourdain, c'est quel principe pour les chrétiens ? Et puis, cette fameuse question sur laquelle vous n'avez peut-être pas forcément fait un arrêt, c'est les eaux s'arrêtèrent près de la ville d'Adam. Entre Adam et la mer morte. Ça parle, non ? Vous en pensez quoi ? Allez-y, vous avez 5-6 minutes pour travailler là-dessus. Sur cette diapositive ? Hein ? Voilà, c'est bon ? Madame Wangto, c'est bon ? Oui ? Elle n'est pas satisfaite. Laquelle ? Mais à quel autre moment Dieu a manifesté son désir que l'arche, elle soit visible ? Les deux ? À quel moment ? Bah on va y répondre. Allez. Quelle différence y a-t-il entre la traversée du Jourdain et celle de la mer Rouge, 40 ans avant ? Pour vous, c'est quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a comme différence ?
Entre le Jourdain et la mer morte ? Ouais. Eh ben, la mer morte, la mer rouge, c'était... La mer rouge, ils étaient dans l'urgence. Ils devaient sauver leur peau. Ils étaient terrorisés et il n'y a pas eu besoin d'arche, il n'y a pas eu besoin de se sanctifier, il n'y a pas eu besoin de se préparer. Il fallait que ça souffle tout de suite pour sauver leur peau.
Alors que celle, le Jourdain, c'est quoi ?
Ben, il y a un temps de préparation, de maturation, de réflexion.
Mais
le passage, c'est entrer dans la terre promise. C'est le baptême, c'est le symbole de notre baptême, de notre... passage de l'ancienne vie à une nouvelle vie, du passé, oubliant ce qui est en arrière, on va vers ce qui est en avant.
Est-ce que vous avez des éléments autres que cela ?
Disons que là, il n'avait pas les ennemis derrière. Oui. Les ennemis étaient de l'autre côté.
Ah oui, c'est important ça. Le passage à la mer rouge. Il y avait les ennemis derrière. Là, au moment du Jourdain, il n'y a plus d'ennemis. Ils ne sont pas derrière, ils sont devant, entre autres.
Voilà.
Très bien, une grosse différence.
Le Jourdain, pour nous aussi, c'est le baptême.
Voilà, c'est le baptême. On peut dire aussi que
la mer morte est une image aussi du baptême. Il y avait autre chose ? Non ? C'est bon ? Vous avez d'autres éléments sur ce point ?
On a dit que c'était une autre génération, en fait. Il n'y avait plus personne de l'ancienne génération, sauf Caleb et Josué.
À part Josué et Caleb, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Non, c'est pareil ? Vous avez à peu près les mêmes idées ? Oui ? Oui ? Dans ce groupe-là aussi. Oui, il y a des différences. La première... vous êtes revenu en arrière. Il se réveille.
Oui, et puis aussi, on avait évoqué ce point ensemble, c'est que la grosse différence, c'est qu'au moment du passage de la mer Rouge, ils ne savaient pas que la mer allait s'ouvrir. Alors que là, ils ont en mémoire cette histoire, et là, ils peuvent aussi... Ils peuvent aussi se projeter en se disant, est-ce que ça va se reproduire comme ce que nous ont raconté nos parents, nos grands-parents ?
Effectivement, la différence, c'est qu'ils ont déjà fait l'expérience de traverser la mer. Alors on ne se dit pas, moi je me retrouve une deuxième fois devant le Jourdain, je dis, oui, ça a marché une fois, peut-être pas deux fois, hein, ça peut être aussi ça. Mais ils ont quand même cette expérience avec Dieu. Alors, le fait que vous parliez des adversaires, c'est une grosse différence. Là, au moment de la mer morte, il y a Pharaon, ses chars, ses chevaux, etc. Donc là, on pourrait dire que cette expérience-là était une expérience d'urgence, c'est ce que vous avez dit. Le Jourdain, on est dans autre chose. L'ennemi a été vaincu, l'esclavage est derrière. Mais ils sont dans une autre étape, c'est passer de l'esclavage à la promesse qu'il y a dans le pays qui est promis par Dieu. De la même manière, alors vous avez évoqué le fait de sortir de ces tentes pour passer le Jourdain. On dit, alors vous avez été un petit peu interrogatif sur cette question-là. Dans le modèle d'Israël, il y a eu des choses qui ont été posées de cette manière-là. C'est que vous avez deux tribus, Ruben et Gad, et la demi-tribu de Manassé, qui ont dit, on n'est pas trop emballé d'aller s'installer dans la terre promise. On trouve que les pâturages de ce côté-là, c'est pas mal. Alors Moïse a dit, oui, mais alors, d'accord, mais vous allez aider vos frères à conquérir la terre promise. Mais ils sont retournés effectivement en dehors de la terre promise, et ça a été parmi les tribus qui ont payé le plus lourd tribut, pour le coup, lorsqu'ils ont été attaqués, parce qu'ils étaient en dehors de la terre promise. Mais dans la vie chrétienne, qu'est-ce que ça peut imager ? Que parfois, il y a des gens qui disent, oui, le salut en Christ, que Christ soit mort pour mes péchés, j'aime. Ça, je l'accepte. Quitter ma vie, vivre dans la sainteté, changer de comportement, vivre dans la droiture, etc. Pourquoi ? Est-ce que c'est utile ? Eh bien, il y a des chrétiens qui sont semblables à la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. C'est, est-ce que mon choix, c'est juste d'être sauvé ? Ou est-ce que, est-ce que Jésus soit mon sauveur, ça me suffit ? Ou est-ce que je veux aussi qu'il soit mon Seigneur dans ma vie tous les jours ? C'est-à-dire marcher avec lui, l'écouter, apprendre à vivre dans une autre dimension. Et puis, il y a quand même sortir de ses tentes, c'est dire, je vais de l'autre côté, je vais aller explorer quelles sont les promesses de Dieu pour moi. Et puis, la dernière chose, les eaux s'arrêtent près de la ville d'Adam et de la mer morte. Adam, vous connaissez un personnage de la Bible qui s'appelle comme ça ? Ouais. Et en fait, le passage du Jourdain, il se situe entre deux portes de la mort. C'est-à-dire qu'à la mer Rouge, il y a des murs d'eau qui se mettent de chaque côté, et c'est un ange qui est là avec Moïse pour ouvrir. Là, il n'y a que, dès que les sacrificateurs mettent le pied dans l'eau, là, il y a un mur d'eau qui se forme, une retenue d'eau du côté d'Adam. C'est-à-dire que Adam, c'est celui par lequel la mort, le péché est entré, et donc par le péché, la mort. Ça vous dit des choses ? C'est-à-dire que du côté de la ville d'Adam, il y a eu un mur d'eau comme un barrage qui s'est fait. Et de l'autre côté, il n'y avait plus d'eau. C'est la différence aussi, c'est de dire, entre ces deux morts, la mer morte, c'est-à-dire qui est stérile, la mer salée, à excès, et Adam qui rappelle le péché, ils sont passés à pied sec pour aller vers la terre promise. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ces... Juste rapidement, la diapo suivante, et je vais... C'est le mémorial des 12 pierres. Moi, je vous invite aussi à regarder, dans le cheminement qu'on vient de faire de travail de ce texte-là, à quoi ça peut nous référer aujourd'hui, ces 12 pierres. Tu donnes juste, quand il passe, Dieu dit, prenez 12 pierres et allez les mettre comme un mémorial, un rappel de ce que vous avez vécu. La diapo suivante, quelle représentation peut-on attribuer à ces 12 pierres ? 12 pierres ! Ça représente quoi ? Les 12 tribus. Je dirais, en ce moment, nous, combien il y a de pierres ? Ben, y a autant de pierres qu'il y a d'églises. Évidemment, la pierre principale, c'est l'église apostolique, mais... Non, vous... ah, je crois que vous n'êtes pas tout à fait convaincu. Non, il y a 12 pierres, autant de tribus, une manière pour Dieu de dire, vous êtes 12 tribus, mais vous êtes un seul peuple. De la même manière qu'aujourd'hui, on dit, vous êtes tant d'églises, mais vous êtes une seule église vivante. Et les eaux du Jourdain retournent à leur place. Bon, les 12 pierres sont installées à Gilgal. Et alors là, juste un petit éclairage pour que vous puissiez savourer le texte. Gilgal, une des étymologies de ce nom-là, c'est pierre roulée. Ça vous dit quelque chose, pierre roulée ? Ouais. Et quand ils font le mémorial, ils le font le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire au moment du commencement de la fête de la Pâque. Alors, une pierre roulée au moment de la fête de Pâques, excusez-moi, il me semble que le message me paraît un peu clair pour préparer les hommes à vivre cela. Voilà, je vais juste terminer là-dessus. Et puis, vous restez à vos places. Je vais demander peut-être bien à Christophe de venir pour le partage du pain et de la coupe. Et on va partager là où on est, pour rester en place, le repas du Seigneur. Il me semble que ce qu'on vient de lire, c'est ce que nous avons vécu. Nous aussi, nous étions... Non, restez où vous êtes, restez où vous êtes. Nous aussi, nous avons été en esclavage sous le régime de la mort et du péché. Et une pierre a été roulée. Et au bout de 3 jours, il nous a été donné de rentrer dans une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle se trouve en Christ. Alors, il y avait 12 pierres qui ont été dressées à Gilgal pour rappeler à Israël, voilà d'où vous avez été sauvés. Regardez à ces pierres, et chaque juif qui pouvait voir ces pierres, alors c'était des pierres qui pouvaient être portées chacune par ado d'homme. Donc je me dis 30 kilos, 40 kilos, je ne sais pas, Pascal, 50 peut-être. Ouais, on peut 50? On peut. Vous imaginez une pierre de 50 kilos. 12 pierres, 500 kilos, 600 kilos. Mais à chaque fois que les Juifs passaient et regardaient, ça leur rappelait. Le repas du Seigneur, le pain et la coupe, ce sont nos 12 pierres à nous. Et ça nous parle aussi que ce sont 12 pierres différentes, mais en même temps, c'est le même mémorial. De la même manière que nous sommes 30, 40 ici, eh bien, nous appartenons au même peuple, celui de Dieu. Quel que soit notre parcours, quelle que soit notre vie, quelquefois, parfois, les choix que j'ai pu faire, mais la seule chose importante devant ce repas et devant ce mémorial, est-ce que Jésus-Christ est mon sauveur ? Et est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur ? Vous voyez, j'ai appris à Louis à commencer à réagir à mes prédications. C'est pas ça ? C'était pas ça ? Ben oui, vous voyez ? Si dans ton cœur, maintenant, tu peux dire, voilà, j'ai traversé le Jourdain, je suis rentré dans le pays de la promesse et de la vie. Si dans ton cœur, il y a cette certitude que Christ marche devant toi, que ce soit 1 kilomètre ou plus, mais que tu peux le voir et le suivre des yeux. Si c'est cela qu'il y a dans ton cœur, alors tu peux prendre le pain et cette coupe. Mais si tu ne le crois pas, ça n'a pas de sens de prendre le pain et la coupe. Si tu es dans un temps de séparation avec Dieu, ou de désobéissance, ça n'a pas d'intérêt de prendre le pain et la coupe. C'est simplement ton rapport avec Dieu. Et ce ne sera pas ni moi, ni quelqu'un d'autre de l'Église qui te dira « tu peux ou tu ne peux pas ». C'est juste dans ton cœur, est-ce que je peux prendre ?